Samedi dernier, le collectif Les Ébouriffés organisait une manif festive à Arras, le mot d'ordre, ensemble, debout pour le vivant. Beaucoup de monde dans ce cortège coloré, hétéroclite avec des syndicats, des partis politiques de gauche, beaucoup d'associations et de collectifs venus du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, et beaucoup de musique aussi. On vous propose d'écouter quelques témoignages récoltés sur place.
Johan, gilet jaune d'Arras depuis le 17 novembre.
Alors vous êtes ici à cette manifestation Ensemble pour le vivant ?
Oui, donc on est ici à la manifestation. En tant que gilet jaune, je trouvais que c'était important de venir. Comme je le dis souvent, fin du monde, fin du mois, même coupable, même combat. Donc c'est devenu un slogan un petit peu partout en France et je le partage totalement.
Et puis on voit qu'il y a aussi d'autres gilets jaunes, d'autres départements, notamment de la Somme, c'est ça ?
Voilà, donc entre autres les gilets jaunes de la Somme, donc on a des gilets jaunes d'Abbeville, de Doulan, d'Amiens qui sont venus aussi en bus, qui nous ont rejoints aujourd'hui, donc ça fait plaisir. On voit qu'on a des échanges sur notamment Facebook, les réseaux sociaux, et des bonnes relations aussi. Donc il y a des gens qu'on n'avait jamais vus, qu'on voit aujourd'hui, on ne faisait que discuter sur réseaux sociaux interposés, ça permet de nouer des liens et puis d'avoir du dialogue justement.
Entre gilets jaunes, mais aussi avec les autres composantes du mouvement social, les syndicats, les associations écolo.
Voilà, exactement. Là, je vois tout à l'heure, il y a l'association L214 avec qui je discutais, je posais des questions aussi. On va dire qu'il y a un échange d'idées. Le mouvement des gilets jaunes, c'est déjà ça. C'est des gens différents qui se réunissent. À l'origine, c'est sur les ronds-points. Et malgré nos différences d'idées, d'idéaux, on a réussi à construire quelque chose. On a réussi à échanger, à dialoguer. On a recréé du lien. Et ce lien, c'est vrai que naturellement, aujourd'hui, on voit des associations qu'on ne croise pas d'habitude, et ce lien, on le fait aussi naturellement avec les autres associations.
Il y a eu des propositions, des lignes directrices affichées par le président de la République cette semaine. Comment vous avez vu ça, vous ?
Les propositions, disons que j'en attendais pas grand-chose, j'ai pas été déçu, parce qu'en effet, ce qu'il nous donne, c'est pas grand-chose du tout. Donc, notamment, il continue avec sa politique des petites phrases pour dire d'heurter, donc nous faire passer encore une fois pour des... on va dire des racistes, des antisémites et je ne sais quoi encore, c'est pas du tout ce que représente le mouvement. Donc il continue à nous dénigrer et ça je trouve ça déjà honteux. Si on veut rétablir du dialogue, déjà on respecte les personnes qu'on a en face de soi. Et concernant ces pseudo-mesures, donc j'ai pas considéré qu'ils proposaient une vraie réponse à nos revendications. Donc nous, la hausse du pouvoir d'achat à la base, on va dire pour tous les Français que... quand il nous a... donné soi-disant une hausse du SMIC, c'était faux, c'était pas une hausse du SMIC. Ce qu'il nous a donné, c'était une hausse de minima sociaux, de subventions, et puis c'était pas pour tout le monde. Là, aujourd'hui, il propose quoi de plus ? Pas grand-chose, parce que les gens vont continuer à avoir du mal à finir les fins de mois. Au niveau des produits de première nécessité, il a pas proposé de baisser la TVA ou quoi que ce soit d'autre. Éventuellement, il y a au niveau des retraités, où il va redonner de la main droite ce qu'il a pris de la main gauche. Donc bon, pour certains, on appelle ça une avancée. Moi, je dis que c'est un pas en avant, un pas en arrière. Mais sinon, derrière, il n'y a rien de concret dans la vie de tous les jours des gens.
Le 4 mai, il y a des pique-niques sur les ronds-points, c'est ça, organisé ? Vous êtes au courant, vous ?
Alors, le 4 mai, il y a un appel à la reprise des ronds-points, à faire des barbecues, notamment. Donc après, certains gilets jaunes sont sédisistes en fonction des sensibilités, pourquoi pas. Donc nous, à Arras, on l'a évoqué, je ne sais pas si on le fera nous à Arras le 4 mai, mais on a pour ambition d'aller rejoindre un autre groupe, notamment sur Lens, pour participer aussi avec eux.
Vive la concurrence ! Vive la compétition ! Et chacun pour sa gueule ! Chacun pour sa gueule ! La police, tout à l'heure, j'ai vu des gens qui étaient cagoulés. C'est hors la loi, ce sont des hors la loi.
Non, c'est une amende ça. Allez-y, il faut renflouer les caisses de l'État.
Véronique Dorme, L214 Beauvais.
Alors Diana de L214. Alors c'est une association antispéciste. Donc nous sommes pour l'abolition des abattoirs. Les arguments actuels pour, en parlant du climat, c'est que actuellement la production de viande est une des causes justement du CO2 et de la perte de notre climat.
On dépense 14,5% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'agriculture, de l'élevage. Voilà, donc on déforeste, on utilise énormément d'eau, on utilise des pesticides, on pollue les terres, on pollue l'eau, on se rend malade parce qu'on mange énormément d'antibiotiques. Voilà, on est devant le transport, l'élevage consomme plus de gaz à effet de serre que les transports. Ben voilà, on n'a pas d'autre choix que de diminuer notre consommation de viande et à terme même l'arrêter totalement. Même si on se moque totalement de la souffrance des animaux et que, voilà, pour notre survie sur la planète, elle passera forcément par la diminution de la consommation de la viande, au minimum.
Comment ça se traduit vos actions? C'est des actions de sensibilisation, des manifestations? Il y a aussi d'autres actions?
C'est surtout des manifestations de sensibilisation, des actions de secteur. Donc nous, personnellement, nous n'allons pas chercher les abattoirs. Nous, nous respectons aussi la vie des personnes, mais
on informe beaucoup.
C'est surtout informer par les tractages, informer par la nourriture, on va dire, leur montrer qu'on peut s'alimenter complètement différemment et qu'on n'a pas besoin de la viande pour être en pleine santé.
Ça colle tout à fait au mot d'ordre de la manifestation. Dans cette manifestation, il y a aussi des syndicats agricoles, notamment la Confédération paysanne, peut-être des paysans. Vous dialoguez avec les paysans? Ça avance aussi les questions, les questions que pose l'élevage, la prise en compte de la souffrance des animaux, des choses comme ça?
C'est-à-dire que les paysans sont contre l'agriculture intensive. Voilà. C'est notre combat commun. Voilà. Après, à un certain moment, nos chemins se séparent, forcément, puisque nous, on est pour l'abolition des abattoirs. On est pour l'arrêt total de la consommation de viande. Eux voient une agriculture plus respectueuse des animaux et plus respectueuse de l'humain, mais au final, on tue les animaux et on vit en les exploitant, ce que nous, on refuse. Voilà, donc on a un combat commun, comme celui d'aujourd'hui, mais on diverge à un certain moment, forcément.
Il y a des gens qui critiquent l'antispécisme, critiquent le rapport à l'égalité, qui est des fois prôné par les antispécistes. L'égalité entre les hommes, c'est pas tout à fait la même chose que l'égalité homme-animal.
L'égalité devant la vie, elle doit être pour tout le monde. On a les moyens de vivre sans consommer d'animaux. On est en bonne santé. C'est scientifiquement reconnu et c'est de plus en plus respecté dans énormément de pays. On est les derniers pratiquement en France à refuser. On a un gouvernement qui refuse absolument de parler du végétarisme et du végétalisme. On a du mal à introduire dans certaines cantines un repas végétal par semaine. On n'informe pas les gens, on laisse croire aux gens que le fait de ne pas manger de viande donne des carences, ce qui est totalement faux, parce qu'avec une alimentation équilibrée, on est en bonne santé. Encore faut-il informer les gens sur la façon de s'alimenter correctement, ce qu'on ne fait pas. Et c'est ce qu'on fait dans de nombreux pays, mais la France ne reconnaît pas ce droit à l'alimentation différente.
Donc L214 montre justement une alimentation saine, équilibrée, ce que ne fait pas généralement toutes les écoles, les sociétés qui cachent un petit peu en disant que non. On ne peut pas vivre normalement, on aura toujours automatiquement un problème de santé si on ne consomme pas de viande. Et c'est tout à fait faux. Parce qu'actuellement, la viande, c'est beaucoup d'antibiotiques, beaucoup d'élevage tellement intensif qui fait que les maladies se propagent.
Vous savez qu'Interbev intervient dans toutes les écoles, un peu partout, en faisant croire aux enfants qu'il faut manger des produits laitiers et qu'il faut manger de la bonne viande. Interbev, c'est le syndicat des producteurs de viande. Des producteurs, voilà. Et ce que L214 n'a pas le droit de faire, L214 n'a pas le droit d'aller à très peu, on intervient peu dans les écoles pour parler de souffrance animale et pour parler d'alimentation. On devrait laisser le choix aux enfants et aux gens. Puisque les syndicats de viande interviennent dans les classes, pourquoi est-ce que L214 ne pourrait pas intervenir également? Et ça, c'est compliqué. Voilà.
je m'appelle Michel Mérès, je suis militant de la planète et entre autres pour l'interdiction des usines industrielles qui fait que l'animal n'est plus que la variable d'ajustement d'un certain nombre de choses et notamment c'est la production à outrance, c'est la destruction de la planète aussi par les rejets d'un certain nombre de produits nocifs, c'est le mal-être animal. Il faut remettre, pour le cas qui nous concerne, remettre les vaches en pâture parce que l'herbe est effectivement un aliment naturel.
Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu contre quoi vous battez et où ?
J'entends rien.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer contre quoi vous vous battez et où, localement ?
Oui, je me bats entre autres contre l'usine à vaches à Drucal-le-Plessiel, mise en place par un industriel qui s'appelait Rabri, qui avait des accointances aussi avec la FNSEA. C'est le grand syndicat productiviste qui détruit, entre autres par les pesticides, les glyphosates, qui détruit toute la planète. Donc c'est un combat certes local, mais aussi qui a une dimension un peu plus internationale. Parce que cette ferme importe du soja qui nous vient directement du Brésil. Et dans le même temps, on a parlé effectivement des populations amérindiennes que l'on, avec le gouvernement fasciste, d'ailleurs gouvernement allié de Marine Le Pen, parce qu'il faut le dire dans notre région, qui se permet de pourchasser effectivement ces peuplades amérindiennes. Je crois qu'on doit préserver l'Amazonie et contre ces projets industriels qui sont inadaptés et qui détruisent la planète.
Alors où en est justement ce projet de ferme de 1000 vaches ?
Oui, pour l'instant on est toujours en procès sur un certain nombre d'aspects, notamment sur le permis de construire, l'illégalité effectivement, puisqu'il y a un jugement qui a été rendu lorsqu'il y a eu le blocus en 2014. Normalement la ferme devrait être limitée à 500 vaches, ils sont à plus de 800. Donc on attend effectivement que la justice aille dans notre sens. Mais je crois qu'elle est aussi, la justice aujourd'hui c'est malheureux, elle est un petit peu plutôt du côté du manche des possédants qu'effectivement des pauvres gens. On le voit notamment sur les gilets jaunes, c'est tout ce combat que l'on mène aussi. Je veux dire que fin de mois, fin du monde, c'est le même combat.
On écoute toujours des témoignages récoltés samedi dernier à Arras lors de la manif festive Ensemble debout pour le vivant organisée par le collectif Les Ébouriffés.
Je suis une adhérente de Eve et je fais partie du collège. Donc Eve, c'est marqué ici, donc association intervillage pour un environnement sain. Et c'est une association qui a été créée en 2011. Pour combattre la porcherie de Ringhem. La porcherie, elle existe aujourd'hui, on n'a pas gagné, on a gagné un petit peu parce qu'elle a été plus petite que prévu initialement. Mais Eve, du coup, a continué et on s'engage aux côtés de toute cette lutte contre les pesticides et puis aussi contre les élevages industriels. Voilà. Cette semaine, en amont de cette manifestive, on a organisé la semaine des randonnées du Coquelicot pour soutenir le mouvement des Coquelicots. Donc on est venu de Saint-Omer à Arras à pied en suivant la Via Francigena et en donnant le message aux personnes qu'on croisait sur le chemin et en laissant des messages aussi sur les chapelles, les lieux publics pour soutenir le mouvement des Coquelicots et pour appeler à venir manifester. Sinon, Eve, maintenant, est plutôt dans la communication, dans l'information concernant les dangers liés aux pesticides.
Ça veut dire que vous avez un peu perdu quand même ce combat contre la porcherie alors
Oui, parce qu'elle est construite. Non, parce qu'elle est construite, elle est moins importante que prévu. Mais on reste très vigilant parce qu'elle pourrait s'étendre. Il faut rester vigilant. Et l'association soutient aussi les autres secteurs qui développent des élevages industriels. Par exemple, Eve a soutenu le collectif d'Acoin-OSB-Cours où il y avait un poulailler industriel en projet avec 108 000 poulets. Là aussi, le poulailler existe désormais parce que, en fait, on n'a pas beaucoup, malheureusement, on n'a pas beaucoup de recours quand le préfet dit oui. On a beau, à l'enquête publique, on a beau révéler plein de problèmes, ben, in fine, c'est le préfet qui décide et qui signe. Hein, voilà. Donc, mais on continue le combat et voilà quoi.
C'est une association qui œuvre principalement au milieu rural alors, c'est ça ?
Oui, bah oui, parce que les élevages industriels se construisent surtout à ce niveau-là. Mais c'est une association qui fait partie, donc ce collectif des ébouriffés, et puis qui a beaucoup aussi manifesté avec nos vicennes, donc contre les 1000 vaches, hein, le projet des 1000 vaches, et globalement qui rejoint toutes les luttes liées à l'environnement, à la défense de l'environnement.
Et les pavés sont tous en blanc. Oui, mais ça rentre dans leur main. Les mauvais jours finiront égaux à la revanche. Quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.
Je m'appelle Isabelle et je suis partie du collectif des associations citoyennes.
Alors qu'est-ce que c'est que ce collectif alors ?
C'est un collectif d'associations plutôt nationales qui est né en 2010 pour lutter contre la financiarisation, on va dire, et la marchandisation du secteur associatif globalement. Voilà. On n'est pas du tout aucun secteur, pas plus association, environnement que sport ou autre. Voilà.
Alors quels sont ces dangers justement ? Pourquoi vous parlez de financiarisation, de marchandisation du secteur associatif ?
Parce que, alors là, on est plus que dans le climat, mais on va dire que de plus en plus, on pousse les associations à faire des appels à projets, à aller vers le privé, à développer des activités lucratives pour se financer. Et de moins en moins, les puissances publiques, les municipalités, l'État, va donner des subventions. Et la subvention, l'idée, c'était de dire une association, des citoyens, des habitants repèrent un besoin, ils proposent une action et donc ils demandent à être financés parce que c'est une action pour le bien commun. Et là, maintenant, c'est la puissance publique qui pense que ça serait bien à faire parce que notamment, ils enlèvent aussi des services publics, par exemple. Et donc, du coup, ils demandent aux associations de le faire, mais dans un bon cadre, avec les sous qu'ils ont décidé, comme ils ont décidé. Donc, et en plus, voilà, on dit à partout qu'il y a moins en moins de moyens. Donc, du coup, on pousse les associations à faire des activités lucratives, mais c'est compliqué quand on veut travailler avec des personnes migrantes ou dans le besoin. Des familles de violence, etc., de dire qu'on va faire une action qui doit être marchandisée, quoi, qui doit être payée ou rémunérée. Quoi.
Ça s'organise comment alors au niveau national il y a, parce que dans le secteur associatif, il y a des démarches très très différentes les unes des autres.
Exactement, on a un collectif, donc c'est plutôt très libre, on n'est pas du tout une fédération ni une organisation comme ça, mais le fait qu'on soit national, chaque été, on a fait une université d'été dans un endroit différent. Et l'année dernière, on est venu à Amiens l'été dernier, donc du coup, on a fait quand même, il y avait un collectif local, le CLAC 80, qui était une dynamique locale assez forte. Et donc du coup, on a vu aussi les prémices de cette mobilisation là pour le vivant aujourd'hui, l'année dernière au mois de juillet du coup. Et du coup, on a accompagné aussi et fait la relation parce que ce qu'on trouve un peu dommageable des fois, c'est qu'on travaille avec plein d'associations. Toutes sont pour le vivant, mais certaines ne se revendiquent pas du tout pour le climat, pour l'environnement. En fait, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait un lien plus circulaire et plus visible entre les nécessités sociales, environnementales. Et donc, du coup, on met ça comme promotion en avant. Et donc, le collectif, il est né, on va dire, de différentes associations. Et il y en a sur tout le territoire. Mais comme je vous disais, on n'est pas du tout fédérés. L'année prochaine, on va sur Marseille. On a été à Rennes, on a été à Lyon. On essaie ces derniers temps de faire les régions qui sont plus touchées, on va dire, au milieu associatif, c'est pas soutenu par leur région. Donc on a fait un peu l'Île-de-France, on a fait les Hauts-de-France, on a fait la région Ara, on va faire la région PACA, je pense, ce serait pas mal aussi, pour l'été prochain.
Debout, pour le vivant.
On a entendu tour à tour dans ce reportage des membres des Gilets jaunes d'Arras, de l'église de la Très-Sainte Consommation, de L214 Beauvais, de Novicenne, de Ève et à l'instant une personne du collectif des associations citoyennes. On a rencontré toutes ces personnes lors de cette manifestive à Arras samedi dernier, Ensemble debout pour le vivant, organisée par le collectif Les Ébouriffés.
Ce serait peut-être plus confortable de se dire que même si on se sent méprisé des pouvoirs publics, ça va aller. On pourrait s'en tenir là, croire qu'on est des privilégiés, des demi-privilégiés, des quarts privilégiés. Ouais, mais voilà, on est venu ici, à Arras, aujourd'hui. Ce serait peut-être plus confortable de se dire qu'on ne nous ment pas. Nous sommes consultés, il y a des enquêtes publiques. Nous sommes concertés, il y a de grands débats. On a eu confiance un jour, on a voté, on votera probablement encore. Parce que si on est là, c'est parce que ce monde nous est précieux. Parce que ce pays nous importe. Parce que cette région nous concerne. Parce que cette commune, cette ville, ce village nous est cher, on y vit. Et peut-être est-ce pour cela que nous sommes là aujourd'hui, à Arras. Si on est là, c'est peut-être aussi parce que la rivière en bas de chez nous porte en elle un autre rêve qu'une fraîcheur empoisonnée. C'est peut-être parce que ces vallons, ces prés, ces bois sont une autre promesse qu'un paysage inhospitalier. C'est peut-être parce que cette biche qui s'enfuit est plus qu'une apparition fantomatique. C'est peut-être parce qu'ils sont comme nous, vivants, fragilisés, et comme nous, emplis de beauté saccagée, comme nous, désunis. Ils sont comme nous, vivants, abîmés, mais eux sont sans voix et immobiles, et ils ne sont pas à Arras. En Hauts-de-France, nous détenons un triste record. Nous sommes l'une des régions les plus polluées de France. Nous n'avons presque plus de haies, plus de paysages, plus de rivières où se baigner, parfois plus d'eau potable à nos robinets. Notre air est souillé, nos terres agricoles deviennent des lieux d'expérimentation industrielle. On y fait des usines pour des animaux, usines qui inspirent honte et dégoût et polluent ce qui reste de nos campagnes. La terre est exsangue, les hommes qui y travaillent ont perdu leur nom de paysans. Les rares agriculteurs qui essayent de ne pas meurtrir le sol sont mis à l'index, méprisés par une PAC qui privilégie rentabilité, épuisement des sols et gestes climaticides. Une région qui exclut les réfugiés qui traversent ces terres, qui écoute peu ces jeunes en colère face à un devenir mortifère. Ce serait trop long de tout énumérer. On n'a pas le temps, on n'a plus le temps. Nous sommes ici à Arras. Nous ici, nous qui ne sommes pas privés de voix, on prend parole pour ces terres, ces rivières, ces bois, ce ciel, cette femme et cet homme rejeté, ces êtres stigmatisés, cet enfant non accueilli, cette hirondelle éperdue, cette abeille empoisonnée, cette vache emmurée, tous sont vivants et méritent notre attention. Nous qui sommes ici, debout pour le vivant, nous qui sommes ensemble, vivants et debout, peut-être pour rétablir un peu de dignité que nous sommes là à Arras aujourd'hui. Et ce n'est qu'un début.
En hommage à vous, victimes de ce monde, vous humains, vous monde végétal et animal, vous terre, air, eau, pour vous, cet acte de salutation fraternelle, solidaire, silencieux, juste un instant de colère silencieuse, à vos côtés, juste un instant de silence, début du Dai-in.
Dans le monde, en 2017, 82% des richesses créées ont profité aux 1% les plus riches. Les 10% les plus riches de la planète sont responsables de la moitié des émissions totales de CO2. En 50 ans, l'extraction des ressources naturelles a triplé dans le monde.
...70% des terres agricoles de la planète servent à produire la nourriture des animaux d'élevage. Une personne sur neuf dans le monde est sous-alimentée. Chaque seconde dans le monde, un tiers de la nourriture produite est jetée sans avoir été consommée.
Plus de 2 milliards de personnes dans le monde sont privées d'accès à l'eau potable. Un hectare de terre agricole est loué toutes les 4 secondes par un pays pauvre à un pays riche. Lors du dernier siècle, nous avons perdu la moitié des surfaces mondiales de forêt.
Le rythme actuel de la déforestation est de 13 millions d'hectares par an, soit la surface de l'Angleterre. En Amazonie brésilienne, 63% de la déforestation servent à la production de soja pour nourrir le bétail. L'utilisation de produits agrochimiques en Argentine a augmenté de 1000% ces 20 dernières années.
En 2017, 207 défenseurs des droits à la terre et de l'environnement ont été tués. En 2017, 68 500 000 personnes ont dû quitter leur foyer pour fuir la guerre, la famine ou les conséquences du dérèglement climatique. En raison de la dégradation des conditions de vie, entre 50 et 700 millions de personnes pourraient migrer d'ici 2050.
Trente-quatre mille 361 migrants et réfugiés sont morts lors de leur périple pour tenter de rejoindre l'Europe entre 1993 et 2018. Entre 2014 et 2018, on compte plus de 17 000 migrants morts ou disparus en Méditerranée.
Coca-Cola reconnaît produire 3 millions de tonnes de plastique par an. Nestlé, 1 700 000 tonnes de plastique par an. 90% des oiseaux de mer ont des fragments de plastique dans leur estomac. 41% des espèces d'insectes sont en déclin dans le monde.
Une espèce de mammifère sur 4, un oiseau sur 8, plus d'un amphibien sur 3 et un tiers des espèces de conifères sont menacées d'extinction mondiale. Plus de 64 milliards d'animaux terrestres sont tués chaque année dans le monde. Plus de 1000 milliards de poissons sont pêchés chaque année, tués par décompression et suffocation. Le bruit des bateaux brouille les signaux sonores des baleines et perturbe leur reproduction. Leurs chants d'amour se perdent dans une immensité dédiée au trafic marchand. En France, les 10% les plus riches détiennent plus de la moitié des richesses, quand les 50% les plus pauvres se partagent 5% des richesses.
Les 6 pays les plus riches de la planète, dont la France, accueille au moins de 9% des personnes migrantes. Presque un cinquième de la production alimentaire est gaspillée chaque année en France.
Il y avait 2 tonnes de vers de terre à l'hectare en 1950. On n'en trouve plus que 200 kilos de nos jours. « 92% des cours d'eau surveillés sont pollués aux pesticides en France.
Fin 2017, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs comptabilisait en France 1 620 000 mètres cubes de déchets radioactifs, soit l'équivalent de 648 piscines olympiques. L'espérance de vie stagne depuis 4 ans en France. L'espérance de vie en bonne santé stagne depuis 10 ans, voire diminue chez les hommes.
L'antibiorésistance est la cause de plus de 5500 décès chaque année en France.
Entre 2007 et 2011, 781 agriculteurs et agricultrices se sont suicidés, soit environ un tous les 2 jours dans les campagnes françaises. La mutualité sociale agricole reconnaît une prévalence accrue des troubles de la procréation et des cancers de la prostate dans les professions agricoles.
Au moins 15 espèces animales et végétales communes en France sont en voie de disparition à l'état sauvage. Les martins pêcheurs, les alouettes des champs, les tourterelles des bois, les pipistrelles, les hérissons. Chaque année en France, 664 millions de poulets de chair sont élevés sans accès extérieur.
Chaque année, plus de 24 millions de cochons sont élevés sur cailles bâties en bâtiment. En Picardie et Nord-Pas-de-Calais, le pourcentage des petites fermes sur l'ensemble des exploitations agricoles est parmi les plus bas de France.
En 20 ans, les populations d'oiseaux communs des milieux agricoles du Nord-Pas-de-Calais ont décliné de 50%.
Gravelines est la plus importante centrale nucléaire d'Europe. Elle est située à quelques centaines de mètres de la mer, dans la première région submersible de France, la Flandre maritime.
En Flandre maritime, 450 000 personnes sont soumises au risque de submersion marine. La Flandre maritime compte également 15 sites Seveso, seuil haut.
En 2018, près de 500 personnes migrantes ont tenté de traverser la Manche sur des embarcations de fortune, malgré la violence des courants et le passage incessant de gigantesques porte-containers.
Ceux qui ont disparu en mer n'ont pas été comptabilisés. Les Hauts-de-France sont la deuxième région la plus pauvre de France.
Le taux de chômage y est le plus élevé de France. Dans le Nord-Pas-de-Calais, un enfant sur quatre vit sous le seuil de pauvreté.
À l'échelle du bassin Artois-Picardie, plus de 3/4 des cours d'eau présentent un mauvais état écologique et plus des 2/3 des eaux souterraines présentent un mauvais état chimique. Dans les Hauts-de-France, les températures augmentent au rythme de plus 0,29 degrés par décennie, alors que la tendance mondiale est de plus 0,22 degrés. Entre décembre 2016 et février 2017, Atmo Hauts-de-France a mesuré 26 jours de qualité de l'air dégradé dans la région, soit plus d'une semaine d'air pollué par mois.
La pollution de l'air dans les Hauts-de-France cause 6 500 décès prématurés par an et une perte d'espérance de vie entre 11 et 16 mois.
Le 15 mars 2019, la grève scolaire pour le climat a été suivie par 168 000 jeunes en France et plus d'un million en France, dans le monde.
Le 16 mars 2019, la marche du siècle a réuni plus de 350 000 personnes en France, 100 000 à Paris, 6 000 à Lille, 1 500 à Amiens et à Arras, mais aussi 7 000 à Liège, 8 000 à Bruxelles.
Arras, 27 avril 2019, nous sommes ici, dans la rue, pour le vivant. Fin du dying.